Je suis devant les bureaux de Black Movie, dans la maison du Grutli, maison des arts, avec Aude Fauvel. Bonjour Aude Fauvel.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on se cherche, on s'est trouvé. Et je vous ai tellement trouvé que j'ai assisté à la conférence que vous venez de donner sur les femmes dangereuses, les femmes surnaturelles, avec le sur entre parenthèses. C'est lié à la programmation de la section qui s'appelle Pagan East, qui comporte 6 films. Vous aviez beaucoup plus de choses à nous exposer et à nous démontrer. Donc les femmes dangereuses, moi tout d'abord c'était le folk horror qui concerne ces films, mais le folk horror c'est aussi la littérature, c'est déjà des imageries ou des mythologies qui existent depuis plusieurs siècles, c'est un sujet qui vous passionne, l'image de la femme, l'image des personnes marginalisées, l'image aussi à travers l'histoire des changements de vision et d'imaginaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette carte blanche qu'on vous offre à Black Movie cette année ?
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que dans la plupart de ces films qui viennent quand même d'autres pays, hein, on est dans des pays de l'Est, on est dans des espaces qui sont lointains. Enfin, je veux dire, on a un film muet des années 20, on a un film des années, deux films des années 60, 70, que malgré tout, il y avait vraiment des résonances avec une très très longue histoire, comme vous l'avez dit, mais aussi avec une histoire récente. Que ces films nous parlent, que les images qu'ils mettent en scène sont finalement extrêmement actuelles et anciennes à la fois. Parce que, comme vous l'avez dit, cette histoire des femmes comme source du mal, dans la civilisation judéo-chrétienne, c'est très lointain. On a Ève
qui a croqué
la pomme. On a les sorcières qui sont poursuivies par l'Inquisition, mais aussi dans les pays protestants comme la Suisse, où elles ont payé très très cher. Mais dans une littérature plus récente, depuis à peu près le 19e siècle, il y a un inversement qui s'est fait, où finalement la femme, la sorcière, est soit plutôt une victime, soit même le symbole d'une rébellion du peuple contre le pouvoir. Et finalement, la nature a été réhabilitée, la femme aussi, face à la ville. Et là, dans tous ces films, on voit ces imaginaires, ça parle beaucoup de sorcières, ça parle effectivement beaucoup de campagne, hein, folk horror, donc bien entendu... Les milieux ruraux. De persécution. Mais avec un retournement qui s'opère dans chacun de ces films, où finalement, même si c'est les années 20, les années 70, ou les années 2020 pour le film le plus récent qui date même de 2022, on voit comment on utilise un genre qu'on pourrait qualifier de mineur, le folk horror et même juste les films d'horreur, pour critiquer assez finement des questions de pouvoir, hein, des questions de suggestion des femmes, des questions politiques aussi, la surveillance des gens qui se dénoncent entre eux, les pouvoirs qui se servent en fait finalement de personnes marginalisées pour se faire du blé. Enfin voilà, moi c'est ça qui m'a frappé, à la fois je dirais le caractère d'images très très anciennes dans chacun de ces films et en même temps une lecture très politique, très actuelle qu'on peut en faire aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et les mouvements féministes.
Oui, des résonances qui sont assez troublantes d'ailleurs. Vous avez mentionné pendant la conférence les divers niveaux de lecture. Ces films peuvent être interprétés de plusieurs façons, à plusieurs niveaux. Et vous avez mentionné qu'à l'époque du bloc communiste, du bloc de l'Est, certains films passaient totalement à la trappe des censeurs, parce qu'ils étaient destinés aux enfants, ou des films d'horreur qui étaient considérés comme des sous-genres, mais qui permettaient des critiques du système étatique.
Oui, tout à fait. Alors, on a notamment deux films qui viennent de ce qui s'appelait avant la Tchécoslovaquie, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et ces deux films, donc, y en a un qui est respectivement Witchhammer, Marteau des sorcières, qui date de 1969, et puis l'autre qui est Valérie au pays des merveilles, qui date de 1970. Or, il faut savoir que à Prague, en 1968, les chars sont entrés de l'URSS en fait pour écraser le gouvernement qui avait tenté de libérer un peu. On parlait même pas de mettre fin au régime communiste, mais enfin de libérer un peu la politique, de libérer la culture. Ça s'est très très mal fini. Ce qui est intéressant, c'est que notamment certaines élites en protestation se sont immolées par le feu. Or, s'immoler par le feu, bah, c'est comme ça que décédaient les sorcières, on les brûlait. Et dans chacun de ces deux films, en fait, on voit, mais c'est pas les deux seuls, mais là c'est particulièrement flagrant, comment on répond par le film d'horreur et des images populaires, de sorcellerie, de voyages, de rêves, de vampires. On est en fait en train de critiquer ce qui s'est passé en 1968. Donc ça, c'est vraiment très clair dans Le Marteau des sorcières, qui pourtant, sur un premier plan, et c'est pour ça qu'il est passé à travers la censure, nous parle des procès de sorcellerie du XVIIe siècle, dans une période reculée, donc a priori aucun rapport en fait, et c'est pour ça que c'est passé à travers la censure. Mais si on regarde plus finement, eh ben, ça c'est un peu les purges de Moscou, c'est un peu... Il y a quand même une personne qui va s'opposer à ce procès des sorcières, qui finit très très mal, qui meurt brûlée, qui est torturée, et si on regarde finement, en fait, c'est très clairement une critique des dérives des régimes totalitaires et de ce qui vient de se passer en 1968. On fait passer une critique de ce qui s'est passé avec l'URSS pour un film sur la sorcellerie, mais quand on sait le contexte, en fait, c'est assez évident. Et quant à l'autre film, Valérie au Pays des Merveilles, qui paraît un film totalement fantaisiste, un peu onirique, un peu sous LSD, entre surréaliste, on est quand même dans les années 70, hein, c'est, voilà, on est en plein dans la période LSD, hippie, enfin ça
champignons
paraît...
Hallucinogène.
Champignons hallucinogènes. Donc ça paraît un film comme ça, très hippie, un peu halluciné, un peu surréaliste.
Power Flower,
mais sous prétexte, alors là aussi c'est un... Un truc assez classique, hein, que ce soit dans les livres, que ce soit avant ou dans les films ou autres, c'est sous prétexte d'un rêve ou d'une hallucination, on se permet beaucoup de choses et on se permet de montrer des scènes de nus, on se permet de montrer des femmes qui sont finalement très libres et très critiques, Valérie en l'occurrence, qui d'ailleurs tue à un moment un de ses agresseurs. Et à la fin, on est, alors contrairement au film dont je viens de parler, Witchhammer, qui se termine pas très très bien, dans Valérie au Pays des Merveilles, on est plutôt sur une idée plus positive d'un ailleurs, d'un monde où un jour on finira par s'unir, aussi bien entre sorcières, vampires, et puis bah, en dessous, bah, aussi bien entre Tchèques, Slovaques, et que peut-être une réconciliation est possible au-delà de ce qui vient de se passer. Donc là encore, ben c'est très situé dans un contexte, mais aujourd'hui, ça nous parle beaucoup, parce qu'en milieu, avec la guerre en Ukraine, on ne peut que espérer que dans un futur, un jour, eh bien, les Russes, les Ukrainiens et les diverses minorités de Donbass pourront un jour, effectivement, peut-être s'unifier en dépit de leurs différences, qu'on pourra passer à autre chose derrière cette histoire sanglante.
Vraiment une résonance des échos très fort avec l'actualité. Vous avez mentionné les années 70, 70, si vous préférez, où il y avait justement le besoin de psychotropes pour pouvoir accéder à une réalité différente, plus ouverte, plus élargie. Il y a quand même eu toute la contre-culture des années 60 qui a préparé le terrain au mouvement des folk horror.
Oui, tout à fait. Puis c'est un peu normal. Alors, outre que, comme je l'ai expliqué dans mon exposé, ça date, en fait, toute la littérature fondatrice du genre de l'horreur, hein, Frankenstein, etc., met déjà en place un retournement dans lequel, eh ben, on sauve les sorcières, entre guillemets, on sauve la campagne, et puis, en fait, le mal vient de la science, le docteur Frankenstein vient de la ville, vient des hommes. Cet imaginaire, il est ancien. Il est constitutif en fait du genre de l'horreur, mais dans les années 70, on reprend cet imaginaire, on l'adapte au goût du jour. Et ce qu'on va retenir aussi des sorcières libérées, eh ben, elles prenaient des drogues pendant, enfin en tout cas on dit qu'elles prenaient des drogues pour faire le sabbat des sorcières, pour se libérer justement, pour faire tout un certain nombre de choses. Et ben là c'est ça qu'on réinterprète aussi dans les années 60-70, on prend des drogues hallucinogènes dans l'idée justement de se rapprocher plus de la nature, plus d'un état de transe, parce que ça aussi, l'idée que les sorcières étaient en transe, elles étaient libres dans leur corps, elles pouvaient danser, donc la danse est effectivement interdite par l'Église. On danse beaucoup dans tous ces films, dans les années 60-70, on danse beaucoup aussi, on prend beaucoup de drogue. Et puis, alors, on a peut-être arrêté de prendre du LSD, dont je rappelle que c'est une substance suisse à la base. On a peut-être arrêté de le prendre sous haute dose, mais aujourd'hui, on est un peu dans un revival de ça aussi, une problématique très actuelle, puisque bah, on parle de micro-dosage et que les gens aussi expérimentent volontiers un certain nombre de choses, de danse libre et autres. Donc là aussi, il y a des résonances avec aujourd'hui.
On songe à certaines cultures, au Pérou, ou justement pour accéder à l'ouverture de l'esprit et même de l'âme, on a recours à certaines substances, des herbes, des plantes. C'est, dans d'autres cultures, c'est assez courant, même les marabouts ou les soi-disant guérisseurs, guérisseuses, mais ils sont considérés même comme des chamans. Ils ont recours pour pouvoir livrer une prestation qui est plus salutaire pour la personne qui consulte. Donc c'est quand même au-delà de l'Europe, c'est généralisé à travers le monde.
Oui, alors cette idée qu'on peut trouver du côté de la nature, du côté des plantes, du côté de la transe, c'est-à-dire aussi comment dire, se mettre dans un état second, aussi physiquement, hein, par divers moyens, une forme de conscience, mais aussi peut-être des remèdes pour certaines choses. C'est assez traversant dans beaucoup de cultures. Après, il faut quand même nuancer dans le sens qu'il y a certaines de ces substances qui sont aussi puissamment hallucinogènes dans le mauvais sens du terme, hein, et que en particulier, on le sait aujourd'hui avec un revival, enfin, il y a que ce soit dans la contre-culture des années 20, des contre-cultures des années 60, 70 et les contre-cultures actuelles. On aime beaucoup prendre un certain nombre de substances diverses et variées. Il y en a certaines qui... Et donc les gens font aussi un revival du côté de notre propre culture. Certains sont intéressés effectivement de ce qui vient de l'ailleurs, mais on voit hein, circuler toutes sortes de renouveaux autour de ces plantes dites des sorcières. Si jamais, faites attention. Les dosages du Moyen-Âge et de l'époque moderne ne sont pas tellement applicables à nos corps. Les sources ne sont pas très fiables. Donc faites attention, aussi bien avec les plantes de l'ailleurs, mais les nôtres. Il faut quand même... entre l'hallucination agréable et l'hallucination vertigineuse, il faut quand même se garder... voilà, si je puis dire.
Oui, merci Baudelaire de suivre votre conseil. Ce conseil, parce qu'en fait, à l'époque, il a peut-être un petit peu abusé des pipes d'opium, peut-être. Mais pour revenir à la nature, dans votre conférence, vous avez mentionné qu'il y a eu la nature qui a été magnifiée, qui a été glorifiée, et puis qui était liée justement à la femme. Et tout d'un coup, ça s'est inversé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'inverse? Est-ce qu'il y avait le patriarcat qui a commencé à prendre de l'ampleur?
Alors cette histoire de est-ce que c'est la nature qu'on doit magnifier ou est-ce que c'est au contraire l'espace urbain, la cité, etc., c'est une ancienne histoire. En fait, moi j'ai fait commencer à ça à partir de la culture judéo-chrétienne, mais on pourrait remonter avant. Finalement, c'est presque sans doute constitutive, et là j'emploie le terme à dessein, de notre mentalité occidentale. Cette question de savoir finalement, est-ce que l'horreur, est-ce que le problème c'est à la campagne, l'ennui mortel aussi, on trouve ça sous la plume de pas mal d'auteurs, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuie à la campagne, tandis qu'à la ville, il s'y passe la science, le divertissement, etc. Ou bien, inversement, des imaginaires qui retournent l'autre chose, de dire que, ben non, la terre nourricière, ça, la terre nourricière, on en a déjà dans la mythologie grecque, hein, la terre nourricière, le contact avec soi, la communion avec la nature, c'est ce qui compte, et que finalement, la ville, elle est polluée, la ville, elle est trop peuplée, la ville, elle rend fou parce qu'elle surstimule. C'est vraiment quelque chose, je dirais, on peut remonter moi, jusqu'à l'Antiquité grecque, et puis ça n'arrête pas de s'inverser, de revenir, et je dirais que c'est finalement tout un chacun. C'est un problème de civilisation, mais c'est aussi comment on se sent. Et puis je pense qu'il y a des moments où on a envie d'être proche de la nature, il y a des moments où on a envie d'être à la ville. Chacun est traversé par cette tension, en fait. Chacun est traversé par cette tension de « est-ce que finalement je ne serais pas mieux ?» dans la nature, plus proche de la nature, ou est-ce que je serais pas mieux dans la ville? On est tous un peu polarisés comme ça, parce qu'on est, constitués comme ça. C'est dans notre histoire, c'est presque dans notre ADN culturel, si je puis dire.
Et justement, dans votre conférence, vous avez mentionné qu'à une époque, bah, les femmes avaient quand même un certain statut. On leur accordait le fait d'être, par exemple, guérisseuse, médecin. Par contre, ce qui m'a intriguée, c'est que vous avez mentionné que c'était plutôt à la Renaissance. Moi, j'avais étudié qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà des femmes médecins. On pense à la Scuola Salentina ou à l'école de Florence. Et puis qu'elles ont été progressivement dépossédées et exclues parce que petit à petit, ça s'est institutionnalisé et les écoles ne reconnaissaient que les hommes pour accéder dans leurs auditoires.
Alors, cette histoire-là, elle est extrêmement compliquée parce que ça dépend qu'est-ce qu'on appelle les femmes qui sont fortes en santé. Il faut quand même aussi se dire que les historiens ont beaucoup mis de côté une histoire religieuse aussi parce que, ben, en tout cas, du côté de la France, on est puissamment anticléricaux. Mais ce n'est pas que les femmes détentrices d'un savoir populaire qui faisaient école. C'est aussi beaucoup ben, Hildegarde von Bingen, c'est beaucoup les femmes dans les monastères qui étaient des femmes puissantes. Il faut quand même se dire que le monastère était aussi, enfin, géré par les nonnes, un endroit où les femmes avaient du pouvoir, hein, et pas qu'un peu d'ailleurs à certains endroits. Donc ça dépend vraiment dans quel endroit on se situe, à quelle époque, et qu'est-ce qu'on définit par des femmes médecins qui ont accès, etc. Alors, cette histoire de la femme au Moyen-Âge qui a un savoir transmis presque depuis les druides, hein, finalement, dans les villages, c'est extrêmement difficile à documenter. Est-ce que ça a même complètement existé? Sans doute, mais enfin, là, je veux dire, les archives, elles sont presque muettes, parce que quand on a des archives, c'est précisément des procès pour leur dire que, en fait, c'était des sorcières. Donc, est-ce qu'elles savaient vraiment faire quelque chose? Est-ce que c'est complètement inventé? Enfin, qu'en était-il exactement? En revanche, documenter effectivement des femmes qui ont réussi à faire éventuellement même l'université, alors oui, Trotta de Salerne, ensuite l'époque de Florence, c'est plutôt après. On a, et puis il y a aussi toutes les femmes qui sont très 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 implantées dans les monastères. Il y a des allées et venues, il y a des moments, enfin je veux dire, là on parle de 2000 ans d'histoire, hein, et de diverses provinces, donc il y a des moments où les femmes peuvent exercer à certains endroits, d'autres pas du tout. Il y a des moments où elles sont puissantes, elles ont du savoir, d'autres où elles sont complètement dépossédées. Ce qu'on peut dire par contre, dans notre, il y a des matrones aussi, les anciennes sages-femmes, le rôle des matrones dans les accouchements. Ce qu'on peut dire, et là où on a des sources, c'est vrai qu'à partir du moment où on a, donc on est arrivé au 19e siècle, où les universités deviennent vraiment le lieu du savoir, où il y a des règlements qui sont adoptés, eh bien là, oui, on met dans les règlements qu'on ne veut pas des femmes. À deux exceptions, et c'est intéressant, la Suisse et la France. Il faut savoir que la Suisse a été le premier lieu de formation de toutes les femmes médecins, mais là, c'est très ambigu. Parce qu'on acceptait de former les femmes médecins étrangères. On avait beaucoup plus de mal avec les femmes élevées suisses. Donc oui, dans une époque récente, c'est tout à fait vrai qu'à la fin du 19e, en gros, les femmes se sont fait évincer à peu près partout. Les sages-femmes ont été réduites à des rôles d'auxiliaires, alors qu'avant, il n'y avait pas de gynéco-obstétricien. C'est vraiment les femmes qui géraient entre elles l'accouchement, principalement. C'est pas complètement vrai ce que je dis, mais enfin, c'est quand même à peu près ça. C'était un monopole féminin. Elles étaient puissantes, elles pouvaient aussi témoigner en justice, etc. Elles ont été dépossédées au 19e siècle. Elles le sont d'ailleurs en partie, enfin... même s'il y a de plus en plus de femmes dans les métiers de santé. Donc là, oui, mais je dirais que cette idée qu'il y a un patriarcat dominant, elle n'est pas toujours vraie quand on revient. On a toujours cette idole du progrès. Avant, il y avait le patriarcat, maintenant, c'est différent. En fait, il y a des allers et retours en ping-pong dans l'histoire. Ça dépend où on se situe, ça dépend à quelle époque. Il y a des moments où les femmes... Ben voilà, les reines en Angleterre, c'est pas n'importe quoi. Les reines mérovingiennes en France, elles sont plus que puissantes et puis elles sont assez...
Violentes,
hein, pour ne pas... Elles sont très très violentes, ça ne correspond pas à l'image de la féminité douce. Donc ça dépend où on se situe. Par contre, à une époque contemporaine, vous avez complètement raison, au 19e siècle, les femmes sont quand même très largement faites déposséder, puis elles ont commencé à retrouver petit à petit de la place, en tout cas de la place de pouvoir, parce qu'elles en ont toujours eu la place, hein, de la place de pouvoir dans nos sociétés depuis les années 60 et plus récemment, mais effectivement toujours au sommet des élites, quelles qu'elles soient, elles sont toujours pas forcément encore très nombreuses.
Alors, autre fois, je rebondis sur vos propos, vous parlez de la dépossession au 19e siècle. Est-ce lié justement à la médicalisation de l'approche de la médecine ?
C'est lié à tout un ensemble de choses. C'est lié à beaucoup de choses, des tendances contradictoires, des tendances politiques, et puis ça dépend des pays, ça dépend des endroits. Mais effectivement, c'est lié, je dirais, plutôt à... Quelle serait la cause profonde ? C'est vrai, d'ailleurs, finalement, je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, en fait. Quelle serait la cause profonde pour pourquoi, subitement, une espèce d'accaparement, que ce soit dans les milieux universitaires, que ce soit dans les milieux économiques, que ce soit dans les milieux politiques, pour évincer la gente féminine ? C'est une vaste question. Alors, par exemple, pour le contexte français, certains disent que c'est finalement une espèce d'incarnation du fait qu'on a refusé d'avoir des reines. Donc, que finalement, il y a une difficulté à percevoir la femme comme étant une femme puissante qu'on a peut-être moins dans les pays anglo-saxons, avec les suffragettes qui commencent bien avant, avec la reine Victoria qui est extrêmement puissante, avec certaines choses qui se passent. D'un autre côté, cette hypothèse ne tient pas forcément complètement, puisque, comme je vous l'ai dit, dans les universités françaises, en tout cas au départ, il y a eu plus de femmes qu'en Grande-Bretagne, donc cette hypothèse ne marche pas vraiment très très bien. Il y en a qui la font, mais donc elle ne fonctionne pas très bien. Certains font l'hypothèse de l'idée qu'il y a une forme de misogynie sous-jacente et qu'au XIXe siècle, on est soi-disant dans une ère démocratique après un certain nombre de guerres, la révolution, etc. Mais qu'on tout de suite on constitue des gens qui ne font pas partie du peuple et qu'on s'occupe de mettre des gens en dehors du peuple et que surtout on s'occupe de mettre en dehors les femmes du peuple. Pourquoi est-ce que c'est lié à des structures familiales profondes? Est-ce que c'est lié à un réflexe masculin? Pourquoi à ce moment-là? Je serais bien embêtée de vous dire, en fait, parce que finalement, je n'ai pas forcément d'hypothèse sur ce revirement, si ce n'est qu'on a des hypothèses politiques, des hypothèses économiques sur l'idée que la classe bourgeoise n'a pas les mêmes idéaux que la classe aristocratique et que, dans le fond, l'idéal de l'économie n'est pas très propice forcément à un idéal d'émancipation, contrairement peut-être à un idéal chevaleresque. Que contrôler les femmes, c'est contrôler le peuple aussi, et qu'après tous les débordements révolutionnaires, on en a assez, finalement, on veut de l'ordre, on veut de la sécurité. Ce sont des hypothèses qui sont faites, certains vont encore ailleurs, mais je serais bien embêtée, moi, à titre personnel, pour vous donner une réponse unique.
Pourtant, vous avez plein de lunettes de lecture, sociologie, philosophie, politique, histoire. Est-ce que vous pouvez donner votre éclairage sur le fait qu'on a parlé des femmes médecins. Par exemple, il y avait les femmes médecins juives en Sicile, dans le sud de l'Italie, qui ont été évincées. Est-ce que c'était lié à leur statut de femme ou à leur religion ?
Appartenance religieuse. Puisque petit à petit, on a bien sûr évincé la population juive. Mais là, elles avaient un double statut qui peut-être posait problème pour l'exercice.
Alors honnêtement, là, sur ce cas particulier, je ne saurais me prononcer. Je ne vais pas faire d'hypothèse. Je pense que assez probablement, c'est les deux, de manière générique. Alors pourquoi est-ce qu'on a effacé les femmes médecins? En fin de compte, finalement, les femmes médecins, c'est compliqué. Parce que, comme quelque part, on dit, dans même les hypothèses très naturalistes, que la femme, c'est avant tout une mère, et c'est quand même ça aussi dans la Bible, etc. La femme, elle est douce et aimante. Malgré tout, les professions de santé, ça semblait aller de soi que s'il y avait bien un endroit où les femmes étaient légitimes, c'était là. Donc là, on a été très très embêtés et finalement, on n'a pas eu de problème à mettre des femmes infirmières. On n'a pas eu de problème, donc on a dû inventer presque des théories naturalistes pour dire que les femmes ne pouvaient pas être médecins. Alors, à un moment, c'était tout simplement parce que si elles s'y connaissaient trop, donc là, il faut remonter dans des périodes reculées, elles risquaient justement de basculer du côté du mal, hein, parce que voilà, les femmes savantes se rapprochent de l'arbre de la connaissance, c'est Ève qui mord la pomme, donc il ne faudrait pas trop qu'elles mangent trop de pommes. Il vaut mieux, pour s'occuper des enfants et pour ne pas mettre la société en péril, qu'elle en sache le moins possible. Et puis en plus, elle embête tout le monde. Alors ça, c'est la critique des femmes savantes chez Molière. Bon, là, on est plutôt à une époque, on va dire, moderne. Pour des époques plus contemporaines, depuis le 19e, on est aussi sur des hypothèses assez organicistes, finalement, et qui sont liées notamment au fait qu'on découvre que les femmes n'ont pas besoin d'avoir de plaisir. Jusqu'à là, on pensait qu'elles avaient besoin d'avoir du plaisir pour enfanter, pour procréer. Donc finalement, la femme, elle est vraiment réduite à un utérus. Hein. Elle n'a pas forcément ni besoin d'avoir du plaisir, ni besoin d'être intelligente. Et il y a aussi des théories évolutionnistes qui vont dire, mais finalement, alors peut-être les femmes étaient puissantes, les Amazones, les femmes dites primitives, avec toutes sortes de guillemets, dans des temps anciens, mais la femme civilisée, elle doit être douce, elle est naturellement douce, elle est du coup plus suave, plus agréable, mais en contrepartie, elle est moins puissante. Il ne faut pas trop qu'elle se fatigue, sinon elle a des problèmes psychologiques. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop qu'elle soit médecin. Il vaut mieux qu'elle soit infirmière, parce que médecin, eh ben, ça risque de lui échauffer le cerveau. Son cerveau est inférieur, donc c'est un problème. Elle risque du coup de mettre en péril la nation, parce que du coup elle se masculinise et puis elle sera plus apte à porter des enfants. C'est une désévolution, hein, puisque son évolution, c'est d'être douce. Et donc aussi, elle ne sera pas suffisamment forte, puisque je veux dire physiquement, pour porter les malades, pour pratiquer des autopsies. Donc tout un tas de raisons pour garder les femmes malgré tout, parce qu'on pense qu'elles peuvent être intéressantes dans leur qualité féminine dans les professions de santé, mais en tant que subalterne, donc infirmière, ça va, c'est correct, mais pas trop quand même médecin, ça ne peut être que l'exception. Donc c'est comme ça qu'on a construit les choses. On les a gardées en santé, si je puis dire, mais on les a évincées des postes de pouvoir. C'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder.
D'où le statut de la femme au 19e siècle, qui est là pour servir son mari et procréer uniquement. Et puis le mari aura des maîtresses, il ira dans les maisons closes. Vous avez mentionné que la femme n'est pas, à une certaine époque, apte à pouvoir supporter de pratiquer une autopsie, par exemple. Et dans votre conférence, vous avez mentionné l'autopsie d'une petite fille pour savoir si elle avait été peut-être visitée par le malin.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à ce que vous dites, il faut quand même savoir que toute cette opinion très négative, très paternaliste et très misogyne, finalement, sur les femmes, elle n'a pas été soutenue par tout le monde. Il faut savoir que c'est toujours aussi des réactions face à des critiques. Hein. Mmh. Et qu'au 19e, on est précisément dans une phase... Alors déjà, il y a eu Olympe de Gouges, etc. Enfin, il y a déjà eu, lors de la Révolution, des femmes puissantes. Il y en a déjà eu, de toute façon, tout à travers l'histoire. Et au 19e, on est justement dans un moment où il y a des femmes qui défendent, et des hommes aussi, hein, commencé par exemple par John Stuart Mill, c'est pas très connu dans son pédigré, mais qui défendent l'idée que le peuple, c'est tout le monde, y compris les femmes. Donc elles doivent voter, elles ont le droit à l'éducation, et des femmes qui sont revendicantes, qui demandent d'aller dans les études. Et donc c'est ce qu'on appelle le féminisme de la première vague. Donc on a aussi toutes ces femmes qui ont un contre-discours qui va petit à petit quand même avoir voix au chapitre. Il ne faut pas s'imaginer un 19e siècle, et toutes les époques avant d'ailleurs, comme complètement unifiées. Et pour revenir à cette histoire d'autopsie, alors oui, effectivement, alors les femmes, c'est très difficile, je ne pourrais même pas vous dire qui est la première femme qui aurait pratiqué une autopsie. Là, on entre dans des conjectures. Peut-être, d'ailleurs, il y en a-t-il eu dans l'Antiquité, ça, on n'en sait rien. Mais pour le cas dont vous faites partie, alors, bizarrement, évidemment, non, ce n'est pas pour rien, elle ne figure dans aucun livre d'histoire de la médecine légale, parce qu'il n'est pas très glorieux, parce qu'on dit habituellement que dans les excès, face aux excès de l'Église catholique, mais aussi aux excès tout court, hein, de la chrétienté aussi protestante, les médecins sont ceux qui auraient essayé, et c'est assez vrai quand même, en tout cas en partie, de dire non, les sorcières ne doivent pas être brûlées, et finalement elles sont atteintes de maladies diverses et variés, donc ils auraient une sorte de rôle salvateur, raisonnable face à une frénésie de chasse aux sorcières. Or là, ce qu'on voit dans une des toutes premières, si ce n'est la toute première autopsie qui a été pratiquée aux États-Unis, donc on est avant les sorcières de Salem, mais il y a déjà des angoisses qui naissent, alors peut-être parce que les communautés sont isolées, justement, donc subitement une espèce de crainte comme ça, qu'il se passe des choses, puis des délations hein, dans des petites communautés, on est vraiment au début de la colonisation des États-Unis. Il y a une petite fille, mais qui dit elle-même hein, qu'elle se sent empoisonnée à distance par une femme, dans une colonie dans ce qui s'appellera plus tard, c'est près du Massachusetts, pour faire taire les rumeurs, et elle décède. En fait, il s'avère qu'elle décède. Prise de mauvais ventre, on ne sait pas exactement, c'est difficile de dire de quoi elle est décédée. Et plutôt que de voir tout partir, justement, pour couper court à la superstition, le pouvoir politique sur place, c'est vraiment là, c'est une petite assemblée de monsieur, hein. Il y a pas grand monde encore, c'est pas très organisé, une espèce de juge, se disent on va faire appel à un médecin, comme ça il va dire non, ça n'a rien à voir, parce que cette petite fille, elle délirait, elle avait la fièvre. On suppose que c'est sans doute ça. Donc ils ont l'idée de faire chercher le médecin pour clarifier les choses, et sans doute, ça c'est mon hypothèse, pour faire taire les rumeurs. Et éviter que ça parte dans tous les sens. Et patatras, il s'avère que le médecin vient et dit « Oulala, non, justement, moi j'ai l'impression qu'il y a des signes bizarroïdes. » Alors en fait, il n'a pas compris que c'est les lividités cadavériques, mais ça, c'est une autre question. Il y a des signes très étranges. Justement, pour moi, oui, il y a des causes qu'on appelle préternaturelles, aujourd'hui on dirait surnaturelles, qui sont à l'action. Je suis formelle. Donc là, c'est un peu l'échec total de ce qu'avaient essayé les hommes politiques. Et puis la femme en question qui avait essayé, justement, qui se disait qu'avec un peu de chance, elle serait sauvée par cette expertise, a la bonne idée, je pense qu'elle a eu raison, de s'enfuir sans demander son reste. Mais ensuite, peu de temps après, va y avoir des flambées de chasse aux sorcières qui vont se développer aux États-Unis, puis qui vont culminer dans les fameux procès de Salem.
Alors, on doit malheureusement vous quitter, vous êtes attendu. Dernière question. Vous êtes arrivé en Suisse romande en 2014 et vous avez mentionné, j'ai bien étudié mon dossier, Voilà, et vous avez mentionné pendant la conférence au Black Movie que justement c'était la zone du monde où on a le plus chassé les sorcières, mais pas que, les enfants aussi, les sorciers. Ça devait être intéressant d'être dans cette région, même en terre protestante, canton de Vaud, il y a eu énormément de victimes.
Alors, c'est pas qu'on les a plus chassés, ça c'est difficile à dire, c'est qu'on les a plus exécutés. De ce qu'on sait, hein, après on ne connaît pas le nombre exact de toutes les sorcières qui ont été brûlées dans toutes les parties du monde, donc il faut quand même relativiser, mais par rapport aux recherches, l'état actuel des recherches historiques, il semblerait qu'effectivement la Suisse, et notamment du côté roman, est l'endroit où, au prorata des habitants, on a exécuté, parce qu'on les brûlait pas forcément, on avait d'autres méthodes parfois, le plus de sorcières et de sorciers, parce qu'il y avait quand même des sorcières, même s'ils sont en minorité, c'est quand même, ça dépend, entre 20% et un tiers de ce qu'on sait. Hein. Alors pourquoi, on m'a posé la question tout à l'heure, je ne sais pas, il faudrait demander quand même aux historiens plus spécialistes. On peut que faire des hypothèses hein, là-dessus. Est-ce que c'est justement le fait qu'on est sur des communautés qui sont très soudées, qui ont l'habitude, dans un certain calvinisme, de la délation, il faut le dire, et de la confession de groupe. Et donc là, peut-être qu'il y avait un terreau plus favorable à finalement s'imaginer toutes sortes de choses. On se dénonce, ça fait presque partie en fait du culte hein, protestant que de faire ces espèces de confessions où on vient et on se juge. Et puis c'est vrai que le calvinisme pur et dur, tel qu'il a été exercé à l'époque moderne en Suisse, n'est pas très joyeux et n'était pas très favorable aux femmes en général, et alors encore moins à celles qui avaient des comportements qu'à l'époque on considérait suspicieux pour des raisons X ou Y. Donc c'est peut-être l'hypothèse qu'on peut faire. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites à ce sujet. On sait qu'il y a une motion qui avait été déposée dans l'idée que pour que le gouvernement s'excuse ou reconnaisse quelque chose, finalement ça n'est pas passé, mais il y a un certain nombre de choses qui vont être faites, je le sais, donc je ne vais pas spoiler pour ce qui se passe, mais il y a un certain nombre d'actions, d'œuvres, etc. qui vont sortir dans pas très longtemps pour...
Dans les vôtres ?
Non, pas les... Si, alors, ok, en tout cas, le cas sur l'autopsie, mais pas les miennes, pas sur la Suisse, mais il va y avoir, je crois, une série qui devrait sortir, notamment. Mais je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le droit, donc voilà.
Alors, merci, Aude Fauvel, pour votre temps. On pourrait vous écouter des heures, merci infiniment.
Merci à vous, merci pour votre compliment, et merci pour ces questions tout à fait intéressantes.
Merci.
Yes.